Ah ouais, genre on se la pète, on est un coton, ouais, on appelle ça une montagne quoi.
J'ai remarqué que les Normands viennent bien se la péter avec la Suisse normande et les coteaux. On a des grandes montagnes, 400 mètres maximum, mais c'est des grandes montagnes pour la Normandie.
Très bien, c'est plus facile pour les randonneurs.
C'est ça.
On va le faire comme ça. Sur tous ces éléments, en fait, on a la chance de t'avoir, toi, qui es un vrai connaisseur, mais c'est des choses qu'on peut découvrir nous-mêmes sans trop de soucis, ou il faut vraiment être accompagné d'un ultra connaisseur?
Alors, il y a pas mal de sentiers. Ouais. Moi, je m'occupe au département d'aménager des sentiers pédagogiques avec des panneaux, des supports, pour en apprendre un peu plus là-dessus. Donc, il y a des sentiers, par exemple, je vous conseille pour la flore d'aller sur le sentier de la Biscutelle à Amfreville-sous-les-Monts. Là, vous apprenez pas mal de choses. Les coteaux Saint-Michel, il y a quand même pas mal d'informations. Après, vous pouvez toujours vous rapprocher des sites internet du Conservatoire d'Espace Naturel de Normandie, de Naturellement Reuilly, des fois aussi sur leur site internet, qui fait beaucoup d'animations. Et puis, j'ai un programme d'animation aussi, je m'occupe de ce programme. C'est Découvrir la nature dans l'heure, donc c'est des animations gratuites pour tous, sur tout le département. Et même ceux qui sont sur Rouen, il y a aussi un autre programme qui s'appelle Balade Nature et Littoral par le département de Seine-Maritime. Bonjour à Clémence, qui est mon homologue de l'autre côté. Et voilà, donc même tout seul ou accompagné,
Facilement découvrir. Exactement. Comme on disait tout à l'heure en démarrage, il suffit un petit peu d'être attentif, d'être réceptif et on découvre.
En creusant un petit peu, on découvre énormément de choses.
On va redécouvrir plein d'autres choses tout à l'heure. On te garde avec nous jusqu'au bout, bien entendu. Je propose une pause musicale avec Ren et Chris Webby. Le titre, c'est Neurodivergente et ça doit être issu d'un album à venir, Impatient.
They told me I was broken. Nothing but a defect in my head. Said that I was hopeless. Just a fucking reject hanging on by a thread. But after all the pills that they got me, it turned me to a zombie. So welcome to the dawn of the dead. In the handicapped spot just to see that doctor. And this is what he said. Yeah, he said I got a touch of the tism. Piece of my puzzle is missing while the attention deficit disorder tunnels my vision. But see, this world's an asylum and shit, we all in the system. And our sanity's the motherfucking cost of admission. You see that glitch in the algorithm, that's me. Don't fit in a crowd, I lift the boundary. Going sick, let it out and flip, they found me. But the misfits frown, so bitch, allow me to show what I came to do. Shut the blinds and keep the noise down. Cause it's about time to let them all into a madman's mind. Not well, but hell, I feel fine.
Go, off script, stay this got twisted, he time lips bled, blow, misfit, don't fit. What makes a person? Neurodivergent, 6'6 for certain, neurodivergent.
quietly. Whoa. Shrinks in psychiatry. Whoa. Don't mind my anxiety. Whoa. Or my non-sobriety. That's fine with me.
C'est Ren et Chris Wibby, une patiente. L'extrait, c'est Divergente.
Neurodivergente.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principatif.
Et puis, pendant qu'on écoute de la musique, vous croyez qu'on se détend ou quoi? Non, on a des informateurs, on a des spécialistes, on a notre équipe, je sais pas comment on peut le dire, tu sais, ceux qui checkent les... Merde, comment ça s'appelle quand on check les
informations?
Ouais, les fact-checking, qui nous envoient des petits messages et on a un complément d'infos, Dylan.
C'est ça, j'ai Anaëlle, une collègue du coup du département qui nous écoute, ça fait plaisir, qui m'a dit que c'était la pirale du buis, en fait, qui allait sur le buis.
Voilà. Exactement, voilà. On complète nos infos au fur et à mesure de l'émission. Merci Anaëlle.
Merci Anaëlle.
Mais entre deux, ben on va retrouver, je tourne la tête et on retrouve notre ami So qui nous a préparé sa chronique habituelle, son regard spécifique sur ce qui se passe autour de nous. So, sur quoi as-tu porté ton regard aujourd'hui?
Eh ben, tu m'as dit oui, nature, on reçoit un passionné de nature, du département, tout ça, tout ça. Donc j'ai dit, bon, bah, allez, on va faciliter le fait d'aller dans la nature. Donc on va parler du routard, le guide du routard de l'Eure.
Ah bah voilà. Oui, j'ai vu, t'es venu avec un sac à dos.
Ouais, bah ça c'est mon petit côté d'oral exploratrice, tu sais bien. Ouais, qui a un peu changé, mais bon. Et du coup, bah en vrai, moi je l'ai ce guide et il m'aide vachement dès que je vais dans un coin à voir ce que je peux faire autour. Donc c'est un guide qui est sorti en 2022. C'était la première édition dédiée entièrement au département de l'Eure. Et ce guide rassemble 300 adresses à découvrir avec une carte détachable. Et ça permet de bien repérer les différents lieux incontournable à visiter sur un territoire donné. C'est beaucoup plus riche qu'on peut ne le penser, en fait. On y retrouve le patrimoine bâti, la nature, les produits du terroir, des bonnes adresses. Le guide du routard de l'Eure propose une découverte complète du département eurois. C'est ça qui est intéressant. La première partie détaille les 18 coups de cœur de la rédaction du Routard, avec par exemple des lieux classés parmi les plus beaux villages de France comme Giverny et Lyons-la-Forêt, Bernay, ville d'arrêt d'histoire, ou Verneuil-sur-Avre, qui fait partie des plus beaux détours de France. Et puis on a aussi tous les alentours à chaque fois qui sont détaillés. Le guide du Routard de l'Eure est ensuite décomposé en zones géographiques, la vallée de l'Eure, le pays du Vexin normand, la vallée de la Seine, le pays d'Avray-Diton, le pays d'Ouche, le parc naturel régional des boucles de la Seine normande. On est sûr de savoir s'y retrouver. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le guide du routard de l'Eure, c'est un outil qui permet de planifier des sorties pas loin de chez soi, en famille, en amoureux ou seul, si on a envie de se faire une petite balade en solitaire. Pour chaque ville et chaque territoire eurois, le guide permet d'identifier facilement les différents points d'intérêt que l'on peut avoir, mais aussi l'accessibilité pour les enfants ou les personnes en situation de handicap, ce qui est quand même assez intéressant et inclusif. Les produits du terroir qui sont typiques, donc ça c'est sympa pour se faire une petite pause ressourçage alimentaire.
Pourquoi quand t'arrives à la partie où on va manger, où on va boire un coup, d'un seul coup ton visage s'illumine?
Bah parce que moi et mon obésité ça nous met en joie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va être honnête avec les auditeurs, hein, voilà. Il y a aussi les contacts si besoin, les adresses utiles, avec les coordonnées des offices de tourisme, les transports locaux. Donc c'est aussi pratique si on a de la famille qui vient d'un peu loin et qu'on veut les laisser en autonomie visiter certains coins. Le format et les infos permettent de vraiment profiter au max d'une excursion dans un des coins du département et de rentabiliser sa journée. C'est un bon moyen de profiter des beaux jours durant les week-ends à venir et puis la période estivale, surtout si on ne part pas en vacances. Donc n'hésitez pas.
Et bien voilà, c'est la découverte d'un coin qu'on pense connaître parce qu'on y habite parfois. Enfin, quand on est dans l'Eure, on se dit « Oh, je connais, c'est là où je vis ». Et en fait, pas du tout, on se rend compte qu'on peut en découvrir plein. Dylan, tu connaissais toi ce guide du routard?
Oui, c'est
de l'Eure.
L'agence Eureka, l'agence d'attractivité. Donc il y a des agences d'attractivité des fois qui valorisent nos départements, nos territoires.
Et là il y avait une combinaison avec le routard, quoi.
C'est ça. C'est ça, on travaille avec eux, ils font aussi d'autres guides, il y a le guide des bonnes tables, ça c'est super, il y a les meilleurs restos du coin. Si moi aussi j'aime bien faire ça en travaillant en département, je commence à connaître pas mal de petits restos à droite à gauche, c'est sympa.
Vous échangez les plans avant la fin de l'émission. Ah, alors.
Si on parle entre gourmands, moi ça me va. Hein.
Et puis oui, il y a toutes ces balades, c'est donc ça. Toi t'as bossé sur ces balades quoi.
Oui, j'ai bossé sur une partie des balades, qui sont les balades sur les espaces naturels du département. C'est des espaces qui ont été identifiés il y a très longtemps et dont on peut gérer, s'occuper et valoriser. En fait, c'est dans la loi, les espaces naturels sensibles, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un nom qu'on retient pas souvent, mais en fait ces espaces naturels, c'est le département qui doit s'en occuper, qui conventionne avec des propriétaires aussi, parce qu'on n'est pas propriétaire de partout, mais qui se doit d'ouvrir ces espaces naturels. Et moi j'aime bien dire souvent que c'est des espaces naturels de proximité, c'est-à-dire qu'on a parlé d'ailleurs du PNR Boucle de la Seine tout à l'heure, il y a aussi des parcs nationaux, il y a aussi des réserves nationales. Souvent ces milieux, ils sont assez loin quand même de certains, enfin on est un peu loin nous du PNR par exemple, des Boucles de la Seine, mais par contre on est toujours proche d'un espace naturel sensible dans le département. Et donc c'est cette proximité qui doit arriver aux habitants et se dire, ah bah tiens, je connaissais pas cet espace naturel, c'est à côté de la maison. Et puis voilà, pardon.
Petite précision sur le routard, petite précision, ce qui est chouette c'est que parfois, par exemple on parle du parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande où on peut vraiment observer les oiseaux, il y a un parallèle qui est fait avec la réserve ornithologique de Val-de-Reuil. Oui. Donc il y a aussi des parallèles qui sont dressés sur d'un coin du département à l'autre. Donc ça c'est intéressant en fait pour se rendre compte que l'intérêt spécifique on peut le retrouver peut-être plus près. Donc ça j'ai trouvé ça aussi assez chouette en fait pour voilà, on n'a pas obligé de se taper tout le bouquin en fait pour découvrir d'autres petites choses et puis avoir une idée peut-être de la sortie d'après.
Ah, c'est pas fou.
C'est dans ces découvertes aussi, moi je me souviens, là on parlait des Boucles de la Seine, du coup je reviens un petit peu autour du bassin de Rouen. Il y a aussi des centres d'intérêt comme la forêt monumentale par exemple qui permet d'aller se faire un tour en forêt, oui. D'aller sortir même des grosses allées de forêt pour aller découvrir des œuvres d'art et du coup un peu la nature quoi.
C'est ça.
Ça c'est assez intéressant, enfin c'est un endroit où j'ai eu l'occasion de me promener sur la forêt monumentale par exemple et c'est plutôt cool quoi.
Ouais.
C'est découvrir autrement quoi, l'espace naturel.
D'ailleurs, c'est tout l'enjeu des programmes souvent des départements de mélanger culture, sport, nature ensemble, de montrer qu'un espace naturel, c'est pas qu'une forêt toute seule. Non, on peut aussi vivre dedans, faire des choses dedans. Moi, j'aimerais bien lancer des fois des comedy clubs aussi dedans et en fait mêler les deux. En fait, pas essayer de cloisonner tout, de dire en forêt, bah c'est que les oiseaux. Non, en forêt, il y a de la culture aussi. Il y a plein de choses à apprendre. Il y a aussi beaucoup de monuments. Moi j'étais étonné quand je suis arrivé au département de l'Eure de voir le nombre de monuments, notamment des châteaux, qui vivent en fait au sein d'un espace naturel et qui profitent à certaines espèces comme les chauves-souris, comme des lézards, comme des insectes en fait qui vont vivre dans les pierres. Et donc en fait c'est top de le faire, notamment en forêt. Petit tips sur les forêts, enfin petit fun fact sur les forêts. Le département de l'Eure, en fait, c'est le département normand avec le plus de forêts. On imagine vraiment le département de l'Eure en mode grande plaine agricole. Mais en fait, on a beaucoup de forêts. Donc des forêts privées, comme la forêt de Beaumont, par exemple. Mais aussi des forêts publiques. La forêt de Lyons, la forêt de la Madeleine, qui est juste à côté de chez nous. Et puis vers Rouen aussi, on a des belles forêts à faire.
Tout à fait. Quand tu parlais tout à l'heure d'espace, tu disais, oui, nous, on s'occupe des espaces naturels sensibles. Comment on s'occupe d'un espace naturel? Parce qu'on se dirait, justement, un espace naturel, on s'en occupe pas pour qu'il reste naturel.
Alors, en fait, il va falloir favoriser ou aider la faune et la flore à y vivre. Donc, par exemple, dans beaucoup d'espaces naturels, on a perdu nos grands herbivores. Donc, je pense à des grands herbivores d'avant, où on a perdu...
Les dinosaures?
Non, je vais penser à des bisons européens, à des élans, à des cerfs aussi, ben, on en a quand même pas mal, mais en fait on a plus cette gestion naturelle des fois, où on est intervenu en fait, et donc il faut continuer à intervenir. On a perdu aussi le pâturage pendant un long moment, on pourrait le voir sur nos coteaux, tous nos coteaux n'étaient pas si boisés que ça, en fait ils étaient pâturés, et en fait au fur et à mesure, vu que ça date de centaines, voire mille années, plus de 1000 ans en tout cas, on a pâturé, donc on a favorisé une certaine flore et une certaine faune qu'il faut préserver, parce que la biodiversité, il y a diversité, et donc si on laissait tout à l'abandon, tout finirait en forêt. Et alors qu'on essaye quand même d'alterner un peu les milieux. On veut de la plaine, on veut de la prairie, on veut des terrasses alluviales, on veut des zones humides, on veut des forêts. Donc en fait, il s'agit de favoriser et de gérer un équilibre. On aime bien gérer cet équilibre aussi en tant qu'humain. Mais vu qu'ils ont perdu pas mal d'habitats, en fait, pas mal d'endroits en fait où on a urbanisé, il suffit du coup d'avoir aussi de l'autre côté ce qui nous reste d'espace naturel, d'avoir cette diversité. Donc voilà. Et comment on gère, pardon?
Ouais, comment on gère du coup répondu. Bah ouais, non, c'est ça. J'ai bien vu comme un politicien, super, tu m'as endormi dans la réponse.
Non, du coup, on va en fait travailler des fois avec des agris. On va travailler avec beaucoup d'agris. Là, par exemple, vous savez tous à Évreux qu'on a cette transhumance des fois qui a lieu. Donc, on va avoir des bergers en fait qui vont nous aider. On va avoir aussi des spécialistes qui vont faire des suivis, qui vont dire bah là, pour favoriser telle espèce, il faudrait peut-être monter les niveaux d'eau. Là-dessus, ça joue beaucoup sur Marais Vernier où il y a cette gestion en fait du niveau d'eau. Et après, on va essayer d'enlever les espèces exotiques envahissantes ou les espèces qu'on a plantées auparavant et qui sont pas du tout normands. Et on va essayer de favoriser d'autres espèces plus locales.
Parce que souvent, le problème des espèces entrées comme ça, c'est qu'elles deviennent facilement invasives, quoi.
C'est ça. En fait, le problème des espèces exotiques, c'est qu'elles vont pas avoir de prédateurs ou d'herbivores qui vont les manger. Nickel chrome, quoi. Enfin, il n'y a plus qu'à arriver à pousser et à prendre l'espace sur les autres parce que les autres, elles, ont des prédateurs, font partie de la chaîne alimentaire. Et là, je vais penser aux espèces, la renouille du Japon, par exemple, qui est difficile à enlever. On va avoir aussi tout ce qui va être la crassule de Helms. Donc, en fait, c'est des espèces que personne ne connaît, mais qui poussent énormément et qui prennent le milieu de tout le monde.
Quand on parle de biodiversité, il y a un truc parfois qu'on sous-estime, c'est celle de la biodiversité des jardins privés en fait, des jardins des uns et des autres, qui sont quand même des vrais centres de biodiversité.
Ah bah oui, si on prend la surface des jardins en France, c'est beaucoup plus important que la surface des espaces naturels. Donc là-dessus, il y a vraiment un enjeu de travailler en fait avec le privé pour qu'il puisse en fait améliorer son jardin ou favoriser la biodiversité au jardin. D'ailleurs, j'en profite du coup pour une autre communication liée d'ailleurs à Eureka, c'est les rendez-vous jardins qui auront lieu début juin. Et je pense que vous pouvez les inviter aussi pour qu'ils vous en parlent.
Mais tout à fait, il y a quelques particuliers qui ouvrent leur jardin. Je pense notamment là sur la Madeleine, le jardin de Pan, qui est tout petit, mais alors qui donne vraiment une dimension énorme. Enfin, de la façon dont c'est fait, on a vraiment l'impression d'être dans un parc presque, alors que c'est un petit jardin de ville, quoi.
Ouais. C'est ça, puis il y a les potagers aussi,
Sympa,
le potager du centre de ressources d'éducation à l'environnement, qui est au lycée agricole de Chambray, vers Gouville. Là, il y a des super choses, moi j'ai appris qu'il y avait des melons d'onfleurs, par exemple, qui existaient, donc il y a plein d'espèces locales que vous pouvez visiter. Il y a un peu plus loin, il y a le potager de Beauménil aussi, là qui préserve beaucoup d'essences normandes, et on en apprend de plus en plus, et puis ils ont des mares là-bas aussi.
Avec le haricot de Ponto de Mer.
Exactement, ça c'est top ça.
Ouais.
Des haricots de Ponto de Mer.
Ouais, des salades locale aussi. Il y a des trucs, des fois on se dit, on se rend absolument pas compte du nombre d'espèces endémiques qu'on peut manger,
locales, qu'on a en fait fait vivre et développer en Normandie. Et donc en fait tous ces jardins, tous ces potagers, c'est l'occasion pendant rendez-vous jardin par exemple ou d'autres moments de découvrir en fait que dans les jardins on a une belle biodiversité aussi.
C'est vrai que sur Eureka il y a quand même énormément d'informations autour de la nature et on peut retrouver pas mal de bons plans, d'idées, de rendez-vous, avec quand même des descriptions sympas qui permettent de comprendre ce qu'on va pouvoir voir sur le terrain. Donc ça, moi, je trouve ça assez chouette. Voilà.
Je vous propose qu'on refasse une très courte pause musicale avec Queen, Herbie. On va avoir Amnesty au téléphone en sortie. Et puis, on poursuivra la dernière partie ensemble avec toi, Dylan.
C'est ça.
Autour. Bon, on va peut-être passer à la faune au bout d'un moment.
Hein,
parce qu'on s'est dit
faune-flore
et on n'arrête pas de parler de
la flore.
De la flore, ce qui est passionnant. Hein. Mais on va passer à la faune dans quelques instants. Queen, Herbie, et on revient juste après.
To her dough, my dear. here is the energy of abundance. Could be money, could be joy, could be romance. And if you trust the nudge and follow it, it'll be raining on you in here. When you lock into the plan, execute on that bitch. Keep it popping on that new age shit. Whoa, babe. Let me move, let me play, let me dance. I'm reminded every day. It's easy. Bitches didn't get the memo. I know sometimes it sucks. Thank you for showing up. I'd rather fake it till I make it than be in a rut. So lighten up, keep it cool. We don't give a fuck. I'm tapping in, turning on till I feel the love.
It's easy.
Come on.
Herbie avec non, on a dit ça suffit avec Happy Lead, le temps que Sau redescende du plateau radio parce qu'elle dansait dessus carrément. C'est ouais. Ça c'est un titre qui marche, hein, non?
Bah, heureusement que les personnes qui me connaissent n'écoutent pas parce que tu veux tuer ma réputation en fait.
Non, mais c'est ça qui est bien avec la radio, c'est qu'on dit ce qu'on veut et les gens imaginent ensuite. Ensuite, pardon. Non, Sau ne dansait pas sur le plateau, mais.
Pas loin.
Mais pas loin, pas on n'était pas loin de ce niveau d'implication musicale.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et puis, on vous l'avait dit. Ah bah non, ça a raccroché, c'est pas grave, on y rappellera dans un instant, on l'aura dans un instant au téléphone. On poursuit, on est toujours avec Dylan Onotaro, Onorato, décidément, tu vois, je vais l'écorcher plusieurs fois, hein. Onorato, qui est chargé de mission valorisation du plan nature. Il est avec nous, on avait dit qu'on avait parlé faune et flore, on a beaucoup parlé flore, mais il y a aussi la flore. La faune. Oh, c'est mignon ça. Bah, parce que c'est mêlé quand même, hein, la faune
bouge,
et la flore.
Tout ça, oui.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est, bah, parce que c'est, il y a oui, de l'interaction entre la faune et la flore.
Si la flore se réveille au printemps, la faune aussi va se réveiller derrière. Donc, oui, il y a énormément de choses liées entre les deux. Enfin, l'un ne vivrait pas sans l'autre. La flore, on en a vraiment besoin. Les abeilles, on en a vraiment besoin, par exemple. Et puis petit à petit, en fait, on remonte la chaîne alimentaire. Après, on arrive aux plus belles espèces qu'on adore, les grosses, en fait, les grosses espèces. Donc, je pense aux cerfs, je pense aux grands rapaces. Mais eux, en fait, sans les tout petits, ils seraient pas là.
C'est ça, ça commence au ver de terre, quoi.
C'est ça, même la feuille, hein, la feuille, la terre directement, ouais, la photosynthèse, le tout début.
Le tout début, c'est ça, c'est l'histoire de la vie que Dylan nous raconte. Sur les espèces, elles sont en interaction les unes les autres, on l'a dit ça. Sur cette question des espèces, ça se réveille, qu'est-ce qui se réveille? Alors les insectes, on a bien vu, les mouches, enfin tout ça, notre regard parfois non averti nous amène en disant bon, c'est le retour des moustiques, c'est le retour des mouches, mais il n'y a pas le retour que de ça.
Non, en fait, c'est tout un retour. Donc, comme on l'a dit, en fait, toute la flore va se développer, donc toute la nourriture va arriver. Donc, on va avoir les fleurs, le pollen, les feuilles, du coup aussi, et puis les fruits qui vont arriver. Donc là, c'est parfait pour que tout le monde puisse refaire les stocks. On va dire, vu qu'on a fait les stocks durant l'hiver, là, on peut refaire les stocks et donc commencer aussi à aller se reproduire, parce que le but d'une espèce, c'est de survivre et de se reproduire. Donc, d'avoir des petits. Donc, c'est le bon moment quand on a les stocks comme ça, on a fait les courses. Hop, on peut avoir des petits. Donc c'est le moment où tout le monde va se chercher et donc en fait tout le monde va faire du bruit. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à entendre beaucoup, beaucoup d'oiseaux, par exemple, beaucoup d'amphibiens aussi, même s'ils ont déjà bien commencé, là, les amphibiens. Mais donc quand je parle d'amphibiens, je parle des crapauds, je parle des grenouilles, je parle des tritons, qui font moins de bruit quand même que les grenouilles et les crapauds. Mais du coup, elles vont toutes faire du bruit pour s'attirer, s'entendre. Là, c'est les périodes aussi, on va pouvoir parler avec les chouettes. Par exemple,
Parler avec les chouettes. Il s'est pris pour Harry Potter, Dylan.
Vous savez, souvent il y a des gens qui vont s'amuser avec leurs mains à faire des bruits de chouettes et à avoir des réponses en fait, parce qu'en fait les oiseaux vont se chercher entre eux pour se retrouver. Donc les amphibiens, leur plan tout de suite, c'est d'aller à la mare. C'est un peu the place to be pour eux. Alors que les oiseaux vont monter sur les arbres, se faire écouter. Donc pour nous, c'est le moment de les écouter. Donc là, on va entendre facilement tout ce qui va être rouge-gorge, tout ce qui va être troglodyte, tout ce qui va être mésange. Tout le monde va chanter, bécasser de partout et en fait se retrouver et se reproduire pour avoir des petits.
Ça, c'est la période, c'est le printemps, c'est là où tout se passe. On entend moins les oiseaux l'été, du coup.
Parce que elles ont toutes, en fait, on va dire du printemps jusqu'à l'automne, en fait, chacun va avoir ses petites périodes. On va dire là c'est l'époque pour eux, c'est le mois d'un tel. Donc par exemple très tard, on va avoir d'autres espèces qui vont se réveiller plus tard. Des fois pour éviter aussi de prendre la place de l'autre ou d'éviter certains prédateurs. Et d'autres fois juste parce qu'ils ont besoin de plus de temps.
C'est comme ça que ça fonctionne. Tu me disais, quand on s'est au téléphone avant cette émission, qu'il y avait les couleurs des oiseaux étaient parfois particulières, mais par exemple que le bleu, c'était pas si commun.
Ah oui, on a parlé des couleurs.
Tu vois, on a parlé des couleurs. J'ai trouvé ça hyper intéressant, où tu m'avais dit, si je dis pas de bêtises, je peux m'être trompé, que le bleu était pas forcément une couleur d'oiseau.
C'est ça.
Alors, et pourtant, j'ai l'impression que les pies, elles sont toutes bleues.
Du coup, oui. Alors non, c'est pas du bleu qu'on voit sur les pies. En fait, c'est des reflets. Donc j'ai fait une petite note quand même pour bien expliquer la chose, parce que le bleu, en fait, c'est une couleur extrêmement rare en fait dans le règne animal. Réellement, quand on regarde un oiseau, si on zoome en fait dessus, c'est pas la couleur bleue, mais c'est le reflet qu'on a, c'est une sorte de diffraction de la lumière qui en fait ressort, et en fait on a du bleu qui ressort. Mais sinon, le bleu, c'est une couleur très rare. Je vous invite des fois à regarder un peu plus ou à vous renseigner sur les sites, mais en fait c'est une couleur qui va refléter différemment par rapport à la lumière et l'inclinaison. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces reflets en fait qui ressortent, parce que suivant l'endroit où on se met et la lumière qui va refléter, on va voir du bleu, du vert ou du noir directement. Et donc oui, les couleurs chez les oiseaux, c'est quelque chose de très développé. C'est comme ça des fois qu'on arrive facilement à différencier le mâle de la femelle. Le mâle va souvent lui être très coloré en fait, très visible pour attirer la femelle. Des fois il va être d'ailleurs trop visible. Et donc là, il va être trop visible pour le prédateur. Donc il y a un équilibre à trouver entre la visibilité et la prédation.
Il y a carrément des espèces qui se mettent en danger pour frimer ?
Oui, alors on va revenir à mes études de licence 3. Mais on a le paradoxe du paon, par exemple. Le paon, lui, il a une belle...
parure de ouf.
C'est ça, une belle parure. Et en fait, il y a eu des études derrière où on s'est dit, à quel moment ça va s'arrêter ? À quel moment le paon, qui aura la plus grosse parure, va se faire attaquer ? Et en fait, le paon, limite, préfère que ça soit un handicap plutôt que de limiter, on va dire, sa parure. Et en fait, c'est au cours de l'évolution, il a réussi à survivre comme ça. Il y a une expérience qui a été faite aussi sur les merles et les becs. Le merle, donc vous voyez l'oiseau noir avec un bec jaune, les femelles, elles sont plus brunes. Et plus le bec sera jaune, plus ça va attirer les femelles. Donc il y a des scientifiques qui sont amusés en fait à flouter de manière naturelle. Aucun merle n'a été
blessé durant ces expériences.
Mais du coup, ils ont remarqué qu'en fait les femelles allaient beaucoup plus vers les merles avec un bec très jaune, parce que c'est synonyme aussi de bonne santé, d'avoir le temps aussi de prendre soin de soi et de manger aussi, parce que c'est des couleurs qui se développent grâce à l'alimentation. Et donc les couleurs, oui, c'est très important dans le règne animal.
Alors tu me disais que les oiseaux sont juste incroyables. En fait, il y a tout un tas de trucs qui se passent sur les oiseaux. Il y a plein de petites astuces, peut-être petites choses qu'on ne connaît pas spécialement. Tu m'avais parlé aussi de la langue d'un oiseau qui faisait le tour ou je sais pas quoi.
Oui.
Là, tu vois, il y a des choses. Je suis amateur de ces petits trucs. C'est à prendre en s'amusant.
C'est ça. Chez les pics, par exemple. Donc les pics, souvent on va vous parler du pie vert. D'ailleurs, c'est le pic vert. On peut lier les deux. Mais il y a aussi d'autres pics. Il y a plein d'espèces de pics.
On en a d'ailleurs pas mal en forêt. Des fois, on les entend.
Par exemple, si on va sur les coteaux de Saint-Michel, la forêt de Saint-Michel, Bois de Saint-Michel, je sais plus comment on l'appelle, et la forêt de la Madeleine. On va voir le Pic Noir aussi. Donc le Pic Noir, c'est le plus grand pic d'Europe. Donc lui, il a la collerette rouge comme un punk. On a parlé punk tout à l'heure. Et il est tout noir là-dessus. Donc lui, super. Et il y a le Pic Épêche, Pic Épêchette, Pic Mar, Pic Vert. Donc ces pics-là, en fait, ils sont connus pour faire des trous. Ils logent un peu tout le monde hein, dans la